au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Au fil des pages pour notre rendez-vous mensuel avec la Revue des Deux Mondes. Désormais, comme vous le savez, nous nous concentrons sur un article de la revue que son auteur vient nous présenter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Steven Englund pour son article intitulé « Napoléon et les Juifs, 200 ans d'ambiguïté et d'ambivalence ». Chers auditeurs, vous dites peut-être encore Napoléon, mais comme nous allons le voir, cet article est en fait un prétexte pour aborder des notions délicates en histoire, celle de l'ambiguïté et celle de l'ambivalence. Alors Steven Englund, bonjour.
Bonsoir.
Merci d'être au micro de Canal Academy. Vous êtes américain, écrivain-chercheur. Vous me reprenez si je
vous allez entendre tout de suite que je suis américain.
Et vous enseignez l'histoire à l'American University of Paris. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur des sujets très divers. Vous avez travaillé sur un cas très célèbre de femme battue aux États-Unis. Vous avez publié une biographie de Grâce de Monaco ou encore une biographie politique de Napoléon qui a été publiée en 2004 aux éditions de Fallois. Venons-en à votre article et tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ces notions d'ambiguïté et d'ambivalence en histoire ?
Ah, bonne question. Je m'intéresse à ça parce que je suis très opiniâtre, moi. Et j'aime beaucoup mes propres opinions. Et souvent, pourtant, je remarque que le devoir, le but de l'historien, c'est d'éclairer le lecteur. En essayant seulement d'expliquer comment c'était, sans trop d'invasion par ce qu'on dit en anglais le pronom vertical, le I, le je. Et pour certains sujets qui sont très névralgiques, très difficiles, comme par exemple l'histoire des Juifs en France, les chances sont très grandes que si les contemporains ne pouvaient pas, eux, décider la chose, que c'est très peu probable que l'historien va pouvoir résoudre à tout jamais une question. Et donc, il vaut mieux réserver son avis, surtout rester dans son incertitude, ce qui est son cas, qu'il le veuille ou non, en essayant plutôt d'éclairer le sujet.
Pour commencer, expliquez-nous déjà ce que vous entendez par ambiguïté et par ambivalence.
Oui. Ambiguïté, c'est plus simple. C'est le cas où on ne sait pas trop. On a bien fouillé dans les archives, on a bien lu les sources et les ouvrages, et pourtant, on ne sait pas la réponse à des questions simples et élémentaires parce qu'on ne sait pas. Le sujet ne se révèle pas. Historiquement, c'est bien loin et nous n'avons pas la capacité de répondre à toute question. Donc ça, c'est l'ambiguïté, c'est de non-clair.
L'obscurité.
L'obscurité, voilà. Ambivalence veut dire qu'il n'y a pas un côté ou un autre facile à prendre, à décider. C'est-à-dire qu'on est dans l'incertitude pour ce qui est ou correct ou bon. On ne sait pas ce qui est tout à fait bon ni correct. On ne sait pas tout à fait. On voit la justice ou l'injustice chez tous les partenaires sociaux, disons, dans la question sous analyse. Et donc, l'historien est obligé de rester dans l'ambivalence ou l'incertitude, si vous préférez. J'ai un collègue...
Ce que n'aime pas l'historien, comme nous allons
personne.
Voir.
Même vous n'aimez pas non plus l'ambivalence.
Mais et donc, pourquoi avez-vous choisi ce sujet de Napoléon et les Juifs pour faire apparaître l'ambivalence et l'ambiguïté ?
Ah, bon. Alors, je vais vous révéler un petit secret que vous ne devez pas dire à personne. C'est que je suis en train d'écrire un livre comparant trois cas historiques. France, Autriche, l'Allemagne pour l'antisémitisme depuis 1800 jusqu'à la fin de la Première Guerre. Donc, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Cela dit, je ne voulais qu'une illustration d'une thème principal que vous avez bien vu au début de cette émission, c'est-à-dire la question de l'incertitude et l'ambivalence. J'ai évidemment dû choisir un sujet qui se prête à beaucoup d'argumentations. Et bien sûr, on a le fameux cas, dans le cas des Juifs sous Napoléon, de l'échange entre Robert Anschel, cet historien des années 20-30, et Albert Mathiez, le grand professeur de la Révolution française. Cette confrontation entre un professeur et son propre étudiant. Et donc ça m'a...
Voilà, parce que Robert Anschel soutient une thèse en 1928, je crois, à la Sorbonne, sur les Juifs sous Napoléon. Et il est pénalisé par son propre directeur.
Oui, c'est un peu bizarre, parce que quand même le directeur a dû savoir ce qu'avait choisi déjà, et il a dû un peu accompagner son doctorant pendant toutes ses recherches. Pourtant, Anschel a écarté la thèse républicaine de l'époque, c'est-à-dire que malgré tous les défauts du Premier Empire vis-à-vis des Juifs, c'était plutôt bon que mauvais, et Mathiez n'a pas pardonné ça.
Voilà, il pénalise finalement son élève pour sa partialité.
Anschel était juif.
Voilà.
Mathiez ne l'était pas. Et... Mathiez n'aimait pas que quelqu'un aurait...
Oui, il accuse Anschel en fait, d'être favorable aux usuriers.
À son propre peuple.
À son propre parti, oui.
À sa race, avait-il dit.
Vous, il appartient à la race des persécutés.
Voilà. Et il faut comprendre, c'était bien avant la Shoah. Donc, le mot race entendait moins à l'époque qu'actuellement. Pourtant... c'est étonnant, même dans ce cas.
Mais cette vision donc de l'historiographie républicaine que Anschel avait voulu remettre en question a perduré tout dans l'historiographie, enfin jusqu'à nous. Et...
Oui, c'est vrai. On peut le voir que dans les livres, les ouvrages actuels, on a l'histoire du Premier Empire de notre collègue Thierry Lenz. Qui en parle, bien évidemment, même on en parle plus même sur ce sujet, la question de la politique juive, disons. Ce n'était pas une politique très importante pour Napoléon Ier. Pourtant, pour nous, ça nous intéresse pour des bonnes raisons. Et donc, on a fait plus de recherches. Et ce qui m'a frappé, c'est que les deux positions restent. On a le livre de Lenz et de Lili Marcou, une autre historienne, d'un côté, et le livre de Pierre Birnbaum, de l'autre. Et on voit le même âpre différence.
Dans un cas, les uns voient Napoléon comme un défenseur des Juifs, enfin, défenseur peut-être pas, mais en tout cas en disant qu'il a permis l'assimilation.
Ça dépend de votre point de départ, tout à fait. Si votre point de départ est un empire bien géré, où toutes les religions connaissent leur place, y compris l'Église catholique. Alors oui, Napoléon, c'était l'empereur de votre désir. Si ce que vous préférez, c'est plutôt un empire libéral, où les religions avaient leurs propres droits et leur pignon sur rue publique, alors Napoléon n'était pas votre homme. Il a bien organisé les Juifs un peu tard, comme il a organisé les protestants et les catholiques. Il a été ce qu'on dit en anglo-saxon « érastien », gallicain, on dirait.
Alors, mais certains lui reprochent donc les fameux décrets infâmes de 1808.
Il a fait une exception, ce qui n'était pas très pardonnable pour un fils de la Révolution. Il a visé les seuls juifs de l'Alsace pour leur pratique d'argent. Il a supprimé toutes les dettes dues à tous les prêteurs d'argent juifs en Alsace pendant 10 ans, je crois, et d'autres éléments aussi. Et c'était ses propres conseillers lui ont rappelé, c'est quand même une exception, et la loi ne fait pas d'exception. Et Napoléon a essayé de se justifier en disant ça va redevenir, après qu'on a... D'abord, il faut protéger la population juive, a-t-il répondu, contre les émeutes et contre les réactions des Alsaciens, des autres Alsaciens. Et donc, il a tenu. Et on a vu une amélioration dans les relations sociales en Alsace. Et puis, l'Empire est tombé. Et
c'est... Si on se place du côté des contemporains de Napoléon, eux le voyaient au contraire comme un défenseur des Juifs.
Ça dépend de qui.
Voilà, ouais. Ça, là aussi, ça dépend encore de qui.
La droite contre-révolutionnaire, très catholique, n'a pas pardonné à Napoléon son attitude vis-à-vis des protestants et vis-à-vis des juifs. Les autres pouvoirs en Europe voyaient Napoléon absolument comme... la Révolution française, y compris son fils le plus célèbre, comme philosémite. N'oubliez pas que la ghetto à Venise et d'autres villes a été détruite par l'armée française. Excusez-moi. Et donc, dépendant de votre point de vue, oui, si j'étais juif, j'aurais préféré vivre sous Napoléon que sous François II.
Oui, donc on voit bien qu'on est en pleine ambiguïté.
Hélas.
Oui. Et donc, en fait, vous déplorez, du coup, et vous montrez par cet exemple que l'ambiguïté de la situation pousse parfois l'historien à des jugements, l'historien qui veut, oui. Qui est à la recherche d'un jugement clair.
Il y a la phrase en anglais, c'est « rush to judgment ». On a accusé la commission Warren de arriver à un jugement trop vite, trop rapide, « rush to judgment » en ce qui concernait l'assassinat de John Kennedy. Chez nous tous, il y a souvent une hâte de savoir. C'est difficile de vivre dans ce que John Keats, le poète, a décrit comme la capacité négative. Et c'est vrai, personne n'aime vivre dedans. On préfère savoir. Et pourtant, pour toute question intéressante, presque toute question intéressante, c'est invraisemblable que vous allez pouvoir le résoudre si 5 ou 10 générations n'ont pas pu le faire.
Et donc, finalement, vous déplorez cette incapacité de l'historien à vivre dans l'incertitude. Et quelque part, ça pénalise beaucoup, vous dites, le legs de la mémoire de
oui.
Napoléon dans la...
Je fais des reproches peut-être aux historiens. On peut reprocher... Un écrivain, un journaliste, on peut faire des reproches à tout le monde. L'ambiguïté n'a pas été créée uniquement pour les historiens. C'est seulement les historiens sont tenus suivre certains critères et canons de leur discipline qui tiennent à ce qu'ils essaient de voir ce qui était le cas avant de se lancer en jugement. Et en même temps, sociologiquement parlant, pour être promu, pour être professeur, pour faire un grand éclat dans le monde des vitrines, il vaut mieux avoir une opinion carrée, évidente.
D'ailleurs, vous terminez en disant qu'il faudrait presque mieux considérer l'histoire comme un art que comme une science.
Ah oui, il vaut mieux ne pas dire ça, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi à l'école des hautes études en sciences sociales? Mais malheureusement, je crains que l'histoire reste art, même quand on dit que c'est science. Parce que les objets sont des êtres humains, c'est-à-dire les objets sont des sujets. On ne peut pas ériger un homme ou une femme en objet.
Bien entendu. Ben, merci Steven Englund. Et espérons que grâce à vous, l'historien, et plus particulièrement l'historien napoléonien, soit capable de vivre dans la capacité négative et permettre ainsi que le legs de Napoléon dans la mémoire européenne cesse d'être source de polémiques. Je rappelle que votre article se trouve dans la Revue des Deux Mondes de décembre, un numéro qui par ailleurs s'interroge sur la place du monstre et qui livre aussi les premières leçons de la crise financière. Ce numéro est disponible en kiosque et en librairie ainsi que sur le site revuedesdeuxmondes.fr. Merci à tous, à très bientôt.